Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, Alliance Plus Fréquence 103.1 à Nîmes. On peut écouter également Jardin d'Isis sur internet, sur le site fmplus.org. Je vais vous présenter aujourd'hui le poète Claude Bert. Claude Bert est né à Nice le 13 juillet 1948 dans une famille de résistants. Elle est poète, essayiste, autrice dramatique française. Elle sera présente à la Maison de la Poésie à Montpellier, 78 avenue du Pirée, le jeudi 19 octobre à 19h. Elle sera présente avec Béatrice Bonhomme, qui est poète universitaire, fondatrice et présidente de la revue Nu, dans le cadre du colloque autour de cette revue. Alors, revenons à Claude Bert. Elle a fait des études, un double cursus lettres-philosophie. Elle a eu une agrégation de lettres. Elle a enseigné en lycée, en université, en école d'art, à Sciences Po. Elle a occupé des fonctions académiques et nationales. Elle a pendant quelque temps dirigé parallèlement une collection poésie aux éditions de l'Amandier. Elle est membre de plusieurs jurys et associations littéraires. Elle est entre autres vice-présidente du Centre international de poésie de Marseille. Elle joint à sa création littéraire des actions dans le cadre de l'éducation, de la défense des droits des femmes et des droits humains. Principalement poète et auteur dramatique, Claude Bert a publié une quinzaine d'ouvrages auxquels s'ajoutent livres d'artistes, publications en anthologie et en revue. Elle donne des lectures et conférences en France et à l'étranger dans le cadre des colloques universitaires, de festivals et de manifestations de poésie. Donc je vais vous lire des extraits de « Il y a des choses que non » qui est le titre de son recueil, paru aux éditions Bruno Doucet en janvier 2017. Donc un premier texte, « Il y a des choses que non », qui présente l'ouvrage en fait, l'esprit de l'ouvrage. « Un jour que j'étais, ne sachant guère de quoi elle parlait, demande à sa grand-mère pourquoi elle avait fait de la résistance. « Ma fille, répond-elle, il y a des choses que non ». Tu ne sauras peut-être pas toujours à quoi dire oui, mais sache à quoi dire non. Je ne sais pas si j'ai su, mais j'ai essayé. Ce recueil, qui rassemble des textes où résonne l'écho de l'histoire, est dédié à Louis Taon, FFI, paysanne anonyme, qui a dit non à tous ceux et celles qui, partout, à chaque instant, continuent encore et toujours de dire non. Écoutons un petit peu de musique, un morceau de piano interprété par Fazil C.
Thank you.
Donc nous sommes dans Jardin d'Isis autour de l'écriture de Claude Bert. Un texte. Je ne sais l'Algérie que d'oreille. Je vais vous le lire en deux fois, c'est un texte assez long. Je ne sais l'Algérie que d'oreille. Par oui dire. Un oui dire qui oscille entre un semi d'actualité dispersée et l'intimité de mes amis et amies qui en viennent, entre le dépeuplement de la parole, images et mots exsangues plus morts que les morts, retués en direct sur l'écran parmi d'autres cadavres, la dernière collection de couture et le score de la coupe de foot. Et des voix qui rendent familiers paysages et histoires, douceur et douleur de vie à mesure d'elles-mêmes. Entre le bavardage de la conciergerie planétaire et le chant lointain de ceux qui se souviennent d'une langue et d'une terre où se dessinent les silhouettes nerveuses et émaciées de ceux que je ne connais pas et qu'à peine j'imagine, j'entends le nom. Ces images n'ont d'œil mais d'oreille. Je ne connais l'Algérie que d'oreille, du oui-dire de ses exilés et de ses poètes. Cette histoire d'oreille rythme ma vie d'une sanction tenue mais tenace qui n'a pas part directe avec moi et à laquelle pourtant j'ai part dans la grande histoire dont je suis une passante anonyme. Je n'ai nul parent venu de là-bas, nul des miens n'y combattit, mais les miens prirent parti. Je suis née d'une de ces familles libertaires pour lesquels l'engagement était d'une évidence et d'une lucidité dont je n'ai mesuré la portée qu'au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure de mes propres noms qui ont suivi les leurs. Je suis issue d'une famille simple qui disait non. Plus que de ce que j'ai appris, lu et fait par la suite, c'est d'eux que me vient un nom irréductible qui veillait dans l'immédiateté des actes plus que des mots à ce qu'ils ne fassent pas minuit dans le siècle. Ils avaient été exilés, immigrés, résistants, syndicalistes. Ils en disaient peu, ils faisaient, et je les ai vus faire. Il me reste d'eux des bribes d'anecdotes, des débris de gestes, quelques mots en arrêt sur un visage. L'Algérie plonge sa racine au profond de mon enfance, sous le nom de « guerre d'Algérie ». À cette guerre, c'était non, et je me souviens d'adultes inscrivant en rouge sur un mur en bas de la colline où nous habitions un « Vive l'Algérie algérienne », recouvrant les lettres noires du sigle OAS. Je me souviens que c'était tragique, l'histoire. Le reste, je le saurai plus tard. Mais la banderole, suspendue au pilier du pont, date de cette époque. Une grande oriflamme blanche traversait, au matin, l'autoroute à la gloire de la liberté des peuples. Je me souviens d'une grappe d'hommes et de femmes attachés au câble, pinceau à la main. Ils firent tous cela, sans doute autre chose, sans doute manifestèrent-ils, signèrent-ils des pétitions, je ne sais pas. J'étais enfant et c'est une limaille d'enfance qu'aimante le nom d'Algérie. Après j'ai su, mais le savoir d'après est d'autre sorte, d'histoire plus que de mon histoire, de conviction plus que de souvenir. J'ai vu barbouiller les murs et coller des affiches où j'avais colorié les lettres du mot « Algérie » avec une perplexité d'enfance. Pourquoi fallait-il préciser « algérienne » puisque c'était l'Algérie ? L'histoire est simple et compliquée à la fois, tu verras plus tard. J'ai vu, déjà j'entrevoyais. C'était compliqué pour l'enfant. Il y avait ceux d'ici et ceux qui venaient de là-bas, dont les uns étaient algériens, les autres français. Il y avait les Félagas, les Pieds-Noirs, les Harkis. Des noms que j'entendais comme ceux des tribus indiennes, de bandes dessinées au milieu d'autres Hurons, Iroquois, Cheyennes ou Apaches. On m'expliquait, non, ce n'était pas la même chose. Quoique, l'extermination des Indiens, la colonisation, la domination. Mais c'est déjà quand les choses se distinguent et se relient qu'en commence leur compréhension. Au moment dont je parle, je sais tout juste lire les grandes lettres majuscules des banderoles et de ce que signifient les mots. Je n'ai connaissance que par quelques visages familiers à mesure d'un périmètre de jambes d'enfant. J'avais seulement compris qu'il fallait se méfier des pluriels. Les Algériens, les pieds noirs, les Hurons, les hommes, les femmes, les Noirs, les Juifs, les Arabes. Il fallait se méfier quand une phrase commençait ainsi. C'était comme une première règle de grammaire. Je ne sais pas comment les miens me l'ont apprise, mais je l'ai retenue aussitôt. Une phrase qui débutait de cette manière risquait vite de tourner mal, de tourner au drame, d'avoir partie liée avec la mort. Il fallait s'en méfier, regarder de près, de très près. Un soir, revenant de l'école, j'avais prononcé le mot « boche ». Mon père m'avait assise sur ses genoux. « Ne parle pas comme ça, ma fille. Chez nous, il n'y a pas de ces mots-là. Tu comprendras plus tard. » Tous les hommes sont capables du pire. Chez nous, il n'y a ni Bosch, ni Bougnoul, ni Youpin, ni Rital, ni rien de cette sorte. C'était des mots que j'entendais dehors et que je rapportais parfois à la maison. Pourquoi ne fallait-il pas les employer? Aujourd'hui, je saurais répondre. Mais que m'ont-ils répondu à l'époque, les miens? J'ai oublié. Ils ne m'ont ni grondé, ni encore moins puni, ce n'était pas dans leur manière. Ils ont sûrement dit à l'enfant « ce sont des gens comme nous » ou bien quoi encore. Je revois seulement la grand-mère tempêter. « Ça n'est pas beau de parler comme ça de nous tous tant que nous sommes. » D'un ton qui ne souffrait pas de réplique, mais avec une telle grimace que l'enfant a ri. Elle avait repris courroucée et secouant ma main. « Écoute un peu, c'est pas beau de dire des choses pareilles. On ne doit pas, jamais, tu entends. C'est à celui qui le dit que ça salit la bouche. » Ils ont peut-être dit. Ils ont surtout raconté des histoires et fait des choses comme celles des banderoles ou de la maison des Arabes que j'entendais en un seul mot, sans comprendre ce qu'ils signifiaient. Sauf qu'à l'école, ils se murmuraient de passer loin de la maison des Arabes parce qu'ils volaient les enfants. Pour éviter l'escalier longeant la maison des Arabes, l'enfant que j'étais faisait un détour par le pont où flottait la banderole. « Mais voyons, de quoi as-tu peur ?» Le père a pris l'enfant par la main et l'a emmené dans la maison des Arabes, cachée au fond d'un parc broussailleux qui sentait la mûre et le romarin. L'enfant ne savait ni ce que faisaient ses parents, ni comment il connaissait les gens de la maison des Arabes, où à 4 heures de l'après-midi, il y avait simplement des enfants et des femmes riant en langue étrangère. Elles ont donné à la fillette des gâteaux sucrés, dont une sorte de petite raquette orange craquant sous la dent en laissant couler un miel épais et un dôme blanc au goût inconnu de pistache et de dattes. La maison des Arabes est devenue la maison des gâteaux au miel et le mot « Algérie algérienne » suspendu au-dessus du pont ont pris une saveur de gourmandise et une couleur d'étoffe à broderie dorée. Je ne sais plus ce que comprenait et pensait l'enfant que je fus. Je me rappelle que les pieds noirs apportaient parfois les mêmes pâtisseries en classe, que je ne faisais plus de détours par le chemin du pont, qu'entre la guerre, les mots pas beaux, les friandises au miel, les pendentifs avec 2 empreintes de pied que des camarades portaient au cou, la croix du sud qu'une vieille femme de la maison des Arabes au regard perçant avait donné à l'enfant pour lui porter bonheur, les inscriptions sur les murs, les mots de la radio que la grand-mère écoutait tous les soirs à 7 heures en marmonnant des commentaires difficiles à comprendre ou revenait dans sa bouche de paysanne toutes sortes de malédictions en français et en patois contre les saloperies de guerre. Entre tout cela, le mot « Algérie » avait fini par rassembler autour de lui un faisceau d'inconnus, de craintes et de fascinations qui ressemblaient à la vie. C'est difficile la vie parfois, très beau aussi, tu verras, disait la mère en penchant vers l'enfant son visage souriant. Puis le père, fais attention ma fille, il faudra faire marcher ta cervelle. Les choses ne sont jamais simples, il faut être vigilant, veiller bien et d'abord sur soi-même. Cette pièce musicale est composée par Fazilcé et interprétée au piano par le même Fazilcé. Revenons à Claude Bert. Et à « Il y a des choses que non ». Elle parle de l'Algérie. « Les miens avaient le sens de la complexité et celui de la nuance, terme qu'ils n'auraient jamais songé à employer. Ils avaient combattu Hitler à cause des camps et Staline à cause d'autres camps. Ils étaient inconditionnellement pour l'Algérie algérienne et pour toutes les révoltes contre la soumission et l'injustice, mais déplorer que les peuples voient si souvent leurs espoirs confisqués. Ils se font bel et bien berner les peuples, grommelait trivialement la grand-mère. Le père objectait que ce serait facile si on pouvait séparer les bons et les méchants une fois pour toutes, mais que c'était plus compliqué l'histoire. La mère racontait comment l'aïeule florentine, exilée en France pour fuir le fascisme, ravaudait des sacs en récitant Dante, emmenait la fillette chez le grand-père italien et chez ses amis d'enfance arménienne, déclarant d'un ton déterminé qu'adoucissait son regard rieur toujours voilé d'une légère ombre grave dans un trou de souris. Je passerai s'il fallait nourrir mon enfant. C'est pareil pour tous et c'est normal. L'enfant pouffait dans sa main en imaginant sa mère, même mince comme elle l'était, se faufilant dans un trou de souris. Lisez les contes du monde entier, les récits d'Ulysse, Jonas et Scheherazade. Je ne savais pas très bien où était l'Algérie, ni pourquoi avait lieu cette sale guerre. Je savais seulement que Bernard B., qui passait parfois à la maison, était d'Oran, comme Kamel, elle, qui y venait aussi. Je ne connaissais pas l'Algérie. J'étais enfant. Le mot disait simplement que c'était compliqué l'histoire et qu'il fallait, comme répétait le père, être très vigilant, parce que la barbarie n'avait pas de patrie, sauf en chacun quand on la réveille. Et je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait dire. Il y avait de la violence, un goût âcre de miel sauvage, des images de murs très blancs où se reflétait le soleil. Il y avait la même mer. Mais oui, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Regarde la carte. Sur la carte, les pays formaient un puzzle de pastilles bigarrées, entre le bleu continu de la mer et des océans. J'écoutais la même eau épeler ses noms différents à la surface de la terre morcelée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à préférer la mer, parce qu'elle est une, et que l'enfant aimait le bleu vaste, facile à suivre du doigt, sans s'arrêter aux frontières et à leurs pointillés à peine visibles au milieu des déserts jaunes, des taches vertes et brunes, des forêts et des savanes. Les cartes aussi étaient compliquées. En Algérie, il y avait le désert du Sahara. Mais tout le Sahara n'était pas en Algérie, où vivaient des Algériens, mais aussi des Berbères, qui étaient là avant l'islam, des communautés juives, elles aussi en un seul mot, jusqu'à ce que les mots se détachent et s'éclairent. Des Français venus sous Napoléon III, les uns comme colons, les autres après la Commune, parce qu'ils étaient communards et avaient été déportés outre-mer. L'histoire était décidément difficile à comprendre pour l'enfant. Et l'Algérie, ce fut simplement l'histoire qui traversait pour la première fois sa vie. « Ça en charrie des morts l'histoire, fillette, » dit le père. « Il y a aussi partout des gens qui s'aiment, » ajoute la mère. « Des gens comme nous, heureux de vivre et des enfants qui jouent comme toi. » On pouvait bien rêver que l'histoire ne soit pas ce qu'elle était. Il n'y avait rien d'autre à faire que faire comme on peut, comme on croit, obstinément. L'histoire, pour la première fois, comme une insistance têtue. Il n'y a pas de paradis nulle part, ni avant, ni après. Ce sont des boniments, vituperait la grand-mère rétive à toute croyance. Il y a quoi alors ? Il y a des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas. « Comment on sait ?» demande l'enfant. « on sait toujours, mais parfois on fait semblant de ne pas savoir, parce qu'il faut du courage. Et ça suffit ?»« Non, ça ne suffit pas, mais tu comprendras plus tard. Il y a des choses que non, c'est tout. » »« Je ne sais pas si j'ai compris. Je n'ai nul mérite de celui des miens. Ils faisaient comme eux, ce qu'ils pouvaient. » Avec ce qu'ils étaient, j'ai fait de même comme moi, ce que j'ai pu. Les choses se sont révélées à la fois simples. Il y a les exploiteurs et les exploités, les puissants et les miséreux, et c'est tout. Ronchonnait une fois de plus ma paysanne d'aïeul, si elle vivait encore, faisant rouler les airs dans son parler cru et imaginé, croisé de patois et de français, et de plus difficile à simplifier. Je ne sais pas si je comprends, mais il me reste quelque chose qui n'a que peu à faire avec la compréhension et d'une nature plus irréductible, une sorte de nom définitif, très vieux, très lointain. Non à toutes les formes d'asservissement, c'est non. De tous les côtés à la fois et en même temps, non. De n'importe quel côté, non. Là et là et là encore, là non. La domination, non. L'humiliation, non. La misère, non. Les femmes lapidées, non. La mondialisation marchande, non. Les nationalismes, non. Les fanatismes religieux, non. Les utopies meurtrières, non. Les réels politiques, non. Je ne sais dire que non, sans arrêt non, avec si peu de oui à glisser dans l'interstice. Finalement, c'est non jusque dans la langue, le poème contre le dogme, l'insurrection dans la langue contre la soumission de la parole, mais ce n'est qu'une figure, je le sais aussi.
Thank you.
Donc nous quittons Fazil C avec une composition donc de son œuvre sous la direction du Metamorphosen Chamber Orchestra dirigé par Scott Hugh. Et on revient à l'Algérie et Claude Bert qui parle de la guerre d'Algérie et de l'Algérie. Je ne suis allée que beaucoup plus tard en Algérie. Mon histoire n'a pas croisé la sienne, mais nos histoires se sont imbriquées. Certains de mes amis en viennent et en ont fui aussi. C'est à la fois simple et compliqué l'histoire, tu verras. J'ai vu. J'ai surtout vu la souffrance des corps sous le cutter de l'histoire, la vie comme une mer, sous la frontière des mots, et la mort, jamais d'une seule rive, et glissant des uns aux autres son témoin. Pourquoi nous passons-nous la mort de main en main, aurait demandé l'enfant. Si elle avait parlé comme je parle, je ne suis plus une enfant, je n'ai plus ce recours. Beaucoup des miens sont morts. Ils avaient des réponses simples et compliquées. Fais attention, fillette, les victimes peuvent aussi devenir bourreaux, et même de soi, il ne faut pas se vanter d'être sûr. Après tant de temps, dans l'impuissance qui fait chavirer nos mots et nos actes, ce qui demeure, à la fois vain et têtu, c'est non. Recommencer, continuer à dire non, stupidement, lucidement, obstinément, ficelé à la noria de l'histoire. Il y eut les rebelles qui se battaient pour la liberté et au quai 12 du port, les longues files de rapatriés qui avaient quitté un pays qu'ils ne reverraient plus. Puis les immigrés entassés dans des bidonvilles et des immeubles ressemblant au clapier à lapins du fond du jardin. Et puis, partout, sans cesse, des abandonnés, des torturés, des violés, des lapidés, des exécutés, des déchiquetés, des égorgés, des bombardés, des gazés, des enterrés vivantes, des brûlés vifs, des morts de faim, des morts pour rien. Il y a l'histoire, et prise en elle tant d'autres histoires, comme celle de Samira qui photographie les exilés avant que tout sombre dans l'abîme, celle de Mounira devenue professeur de littérature à la Sorbonne, celle d'Ahmed qui ne sait plus où donner de la tête et casse la gueule à tout ce qui bouge, celle de Dounia dont le frère est mort à 16 ans, victime d'un crime raciste, celle d'un Hakim de Béjaïa, le cœur sur la main et des mains de géniales percussionniste. Il y a celle d'une Layla dont Majnoun dit l'amour dans des mots que j'ai écrits, et d'une autre Layla morte éventrée par des intégristes. Il y a celle d'Ali qui mange du saucisson, ne croit ni à Dieu ni à diable et veut que ses filles réussissent polytechnique. Celle de Sarah, mi-juive, mi-arabe, mi-berbère, mi-française, et qui écrit des poèmes trop grandiloquents pour ceux qui ne sont pas elle. Mais c'est ainsi, elle n'a pas d'autre histoire, ni d'autre façon de raconter celle de Dalila, dont la voix de soprano garde en veine d'ébène la marque de son aïeul noir esclave à Blida. Celle de Jasmina, qui vit avec une femme et a dû changer de quartier pour ne pas que ses frères la découpent en menus morceaux de viande. Celle de Mustapha, plein de douceur et de sagesse, récitant par cœur les poèmes d'Ali Mahari et de Mohamed Dib. Celle de Faïza et Abdel, dont les fils sont devenus fanatiques et qui m'écrivent que voir ses enfants rejoindre ses ennemis, c'est pire que s'arracher le cœur. Celle que j'ignore, d'un épicier de Tlemcen, accueillant et volubile, installé depuis 20 ans au pied des tours de la Défense. Celle de Tahar, le médecin berbère, élevé sous une tente nomade, qui dit ma vie, c'est 10 siècles en 10 ans. Il y a celle de Latifa, renvoyée de force au bled, pour épouser quelqu'un dont elle ne voulait pas et ne reverra jamais Asnières-sur-Seine où elle est née. Et celle de Djenna, repartie heureuse à Djurdjura avec celui qu'elle aime. Celle d'Areski, élu conseiller municipal et qui parle comme un livre. Celle de Malika, qui rêve de s'installer au Québec, où son père l'a envoyée poursuivre ses études de droit. Celle de Salim, avec lequel j'échange livres et cigarettes dans les coulisses du théâtre. Il y en a trop pour le si peu que je connais. À me livrer à tous les embouts de la parole, je vis dans le silence médian qui la creuse. D'un même mouvement, je dis et je tais, j'inscris et j'efface Algérie. Ce fut un nom sur des murs et des banderoles. Ce fut, et c'est encore tant de gens et de visages croisés, regardez, écoutez, ce sont des images sur le bocal vitreux de l'idiote box. Des gâteaux sucrés et une vieille carte des géographies. C'est la mort encore parfois, et la vie dans son entame. Ce fut, et c'est l'histoire de l'histoire. C'était la première fois dans mon enfance que j'avais à faire son éventration et que du miel coulait avec du sang. C'était Jardin d'Isis sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, et dont on peut retrouver les émissions sur podcastées sur Radio FM+. Autour de Claude Bert, il y a des choses que non, poète, paru aux éditions Bruno Doucet, et nous avons écouté Fazil C au piano. Vous retrouverez Jardin d'Isis chaque deuxième et troisième jeudi du mois à 13h15 et 19h15.